Chapitre 35. Dès qu'elle sortit du château, Ada se retrouva plongée dans le chaos et les ténèbres, la mort et la terreur. Elle fonçait sur la pelouse sud, Pétir et quelques autres sur les talons, mais la nuit était si noire qu'elle ne distinguait que les torches sur les palissades et les ombres des hommes et des femmes courant dans le vestibule, n'entendait que des cris et des hurlements. Rayman les rejoignit au pas de course. Le colosse barbu, l'un des premiers à avoir gagné Ardis pour y suivre l'enseignement d'Odysseus, avait épuisé son stock de carreaux d'arbalète.
« Les Voyniks ont commencé par assiéger le mur nord. Ils étaient 300 ou 400 et attaquaient en masse. »«
300 ou 400 ?» murmura Ada. L'attaque de la nuit précédente, la plus violente qu'ait subie Ardis, était le fait de 150 créatures réparties sur tout le périmètre défensif.
« Ils ont au moins 200 sur chaque flanc !» reprit Rayman en haletant. « Ils ont commencé par le mur nord, où nous avons subi un feu roulant de pierres. Il y a eu pas mal de blessés. Impossible de voir arriver ces rochers. Et quand nos forces ont commencé à fléchir, les Voyniks sont bondis sur les remparts, la moitié d'entre eux catapultant l'autre moitié. Ils ont semé la panique parmi les bêtes avant qu'on ait pu appeler des renforts. Il me faut d'autres carreaux, et aussi une lance !»
Il fit mine de foncer vers le vestibule où armes et munitions étaient entreposées, mais Pétir le retint.
« Vous avez pu évacuer les blessés ?»
Rayman secoua la tête.
« C'est de la folie. Les Voyniks ont massacré tous ceux qui sont tombés, même s'ils n'avaient que quelques égratignures. On n'a pas pu les aider. »
Il détourna les yeux. Ada fit le tour du bâtiment au pas de course en direction du flanc nord. La scène était éclairée par l'incendie qui ravageait le grand cubilo. Les baraquements de bois qui abritaient plus de la moitié des occupants d'Ardis étaient eux aussi en flammes. Une foule paniquée refluait sur le château. Les bœufs poussaient des meuglements déchirants à mesure qu'ils tombaient sous les lames des Voyniks, ces ombres vives et sinistres. Ils avaient jadis tenu les abattoirs du genre humain, ainsi qu'Ada le savait bien, et leurs puissants bras d'acier s'achevaient par des lames meurtrières. Sous ses yeux horrifiés, les bovins s'effondraient dans la neige boueuse, puis les Voyniks foncèrent sur elle, franchissant en quelques bonds la centaine de mètres qui les séparait du bâtiment. Pétir lui agrippa le bras.
« Vite ! Il faut battre en retraite ! Les touffes de feu !»
Ada se dégagea, s'inséra dans le flot des fuyards jusqu'au patio, s'empara de l'une des torches qui l'éclairait et fonça vers le fossé le plus proche. Elle dut se faufiler entre les défenseurs paniqués qui couraient en masse vers le château. Elle vit Rayman et quelques autres tenter de canaliser leur progression, mais ils ne cessaient de courir dans tous les sens, semant derrière eux arcs, arbalètes et fusils à fléchettes. Les Voyniks se massaient autour du cubilo, bondissaient sur l'échafaudage dévoré par les flammes, massacraient les hommes et les femmes qui s'étaient improvisés pompiers. D'autres Voyniks, il y en avait des dizaines, voire des centaines, fondaient sur Ada telle une masse grouillante de cafards. La douve n'était plus qu'à 15 mètres, les Voyniks à moins de 25.
« Ada !»
Elle courait. Pétir et quelques autres la suivaient, et les premiers Voyniks sautaient par-dessus la première douve. Les bidons de kérosène étaient en place, mais personne ne les avait vidés dans le fossé. Ada ouvrit l'un d'eux, le renversa d'un coup de pied, le roula jusqu'au bord de la douve où le fluide puant coula paresseusement. Pétir, Salas, Péaen, Aimé et d'autres ne tardèrent pas à l'imiter. Et les Voyniks furent sur eux. L'un d'eux franchit l'obstacle d'un bond et d'un coup de lame trancha le bras d'Aimé au niveau de l'épaule. L'ami d'Ada ne cria même pas. Elle fixa sur son moignon des yeux éberlués, ouvrit grande la bouche. Le Voynix leva le bras et la lueur des flammes accrocha ses lames. Lâchant sa torche dans la douve, Ada ramassa une arbalète et logea un carreau dans la bosse du Voynix. Celui-ci se détourna de sa proie pour se tendre, se préparant à bondir. Pétir l'arrosa de kérosène en même temps que Loès jetait sa torche sur lui. Le Voynix s'embrasa et se mit à tourner en rond en battant des bras, ses capteurs infrarouges saturés. Deux tireurs le criblèrent de fléchettes. Il tomba dans la douve et l'alluma sur toute sa longueur. Aimé s'effondra et Rayman la rattrapa, la soulevant sans effort, puis se mit à courir en direction de la maison. Surgissant des ténèbres, un rocher gros comme le poing fila à travers les airs presque aussi rapide qu'une fléchette et frappa Rayman à la nuque. Il tomba à la renverse dans le fossé en flammes. Son corps et celui d'Aimé s'embrasèrent.
« Tiens !»
hurla Pétir en saisissant Ada. Un Voynix sauta à travers les flammes et atterrit entre eux. Ada lui logea un carreau d'arbalète dans le ventre, puis s'accrochant à Pétir, contourna la créature chancelante pour s'enfuir vers le château. Le domaine s'embrasait de toutes parts et les Voynix étaient partout. Ada vit que les douves de feu ne les arrêtaient pas. Les fléchettes en tuaient quelques-uns, en ralentissaient quelques autres, ainsi que les flèches et les carreaux, mais les tireurs étaient aussi rares que mal assurés. La majorité des défenseurs avaient cédé à la panique, oubliant leur notion de discipline. Il tombait une véritable grêle de rochers en provenance de la forêt, un feu continu de projectiles meurtriers. Ada et Petyr s'arrêtèrent près d'une jeune femme rousse, voulurent la relever avant que les Voynix ne les aient rattrapés. Frappée au flanc par un rocher, elle crachait du sang sur sa tunique blanche. Ada jeta son arbalète pour mieux la tenir et reprit sa course trébuchante. Les humains allumaient à présent toutes les douves creusées dans la cour, mais Ada vit que les Voynix n'avaient aucun mal à franchir cet obstacle. Leurs ombres vives bondissaient sur la pelouse, et en moins de quelques secondes, la température avait monté d'une douzaine de degrés. Soudain, la jeune femme s'effondra, manquant entraîner Ada dans sa chute. Elle s'accroupit à ses côtés, horrifiée par la quantité de sang qui maculait sa tunique, mais Petyr l'obligea à se relever, à poursuivre sa course.
« Il faut fuir, Ada ! Non !»
Au prix d'un effort surhumain, elle hissa la blessée sur son épaule et réussit à se redresser. Cinq Voynix les cernaient. Petyr avait ramassé une lance brisée et les menaçait de sa pointe, mais les Voynix étaient trop rapides pour lui. Ils esquivaient les coups plus vite qu'ils ne pouvaient les porter. L'un d'eux lui arracha son arme des mains, Petyr tomba à plat ventre devant lui. Ada chercha frénétiquement une arme du regard. Elle tenta de relever la jeune femme afin de se libérer les mains, mais elle s'effondra une nouvelle fois. Ada se précipita sur le Voynix dressé au-dessus de Petyr, prête à l'affronter à main nue. Une salve de fléchettes retentit, et deux des Voynix s'affalèrent, dont celui qui allait décapiter Petyr. Les trois autres se tournèrent vers le nouvel assaillant. Laman avait perdu quatre doigts de la main droite lors de la précédente attaque, mais il brandissait dans la gauche un pistolet à fléchettes. À son bras droit était fixé un bouclier de bois et de bronze sur lequel rebondissaient les rochers. Derrière lui venaient Salas, Oéléo et Loès, tous des amis d'Anna et des disciples d'Odysseus, tous protégés par un bouclier et armés d'un pistolet ou d'un fusil à fléchettes. Deux des Voynix s'effondrèrent et le troisième battit en retraite derrière le fossé en flammes. Mais il y en avait des douzaines d'autres qui couraient tout autour de leur petit groupe. Petyr se releva en chancelant, aida Ada à soulever la blessée, et tous trois se dirigèrent vers la maison, distante d'une bonne trentaine de mètres, guidés par Laman et escortés par ses trois compagnons, qui tenaient tous leurs boucliers bien haut. Un Voynix sauta sur Salas, l'écrasant sur le sol boueux et lui broyant l'échine. Laman se retourna et cribla sa bosse de fléchette. La créature s'envola au-dessus du gazon gelé, mais Ada vit que Salas était morte. Au même instant, un rocher percuta le crâne de Laman, le laissant sur le carreau. Confiant son fardeau à Petyr, Ada ramassa le lourd pistolet à fléchette. Une volée de rochers jaillit du néant, mais les humains s'accroupirent derrière les boucliers de Loès et d'Oéléo. Petyr s'empara de celui de Laman, renforçant leur barrière défensive. Un rocher particulièrement volumineux fracassa le bouclier d'Oéléo et lui cassa le bras gauche, et la malheureuse, une proche de Daeman, rejeta la tête en arrière pour pousser un cri de douleur. Autour d'eux, les Voynix se comptaient maintenant par vingtaines, par centaines, et ils ne cessaient de courir, de sauter, de tuer, tandis qu'une véritable armée fondait sur le château d'Ardis.
« Nous sommes coupés des nôtres !»
s'écria Petyr. Derrière eux, les flammes qui brûlaient dans les douves avaient perdu de leur intensité, cessant de ralentir la progression des assaillants. Sur le sol, les cadavres humains étaient plus nombreux que les dépouilles de Voynix.
« Il faut tenter le coup !»
hurla Ada. Le bras gauche passé autour de la jeune femme inconsciente, tenant fermement le pistolet de la main droite, elle ordonna à Oéléo de se rapprocher de Loès afin que leur bouclier les protège tous les cinq. Puis ils coururent tant bien que mal vers le bâtiment. Les voyant arriver, quelques Voynix allèrent grossir la masse de 20 ou 30 créatures qui leur barraient la route. Certains d'entre eux étaient hérissés de fléchettes, sur lesquelles dansait la lueur des flammes, parant bosses et carapaces d'éclats rougeoyants. Un Voynix arracha son bouclier à Oéléo, la souleva dans l'air et d'un geste puissant lui trancha la gorge. Un autre s'empara de la blessée, mais Ada colla le canon du pistolet à sa bosse et tira à quatre reprises. Le tronc de la créature explosa littéralement et elle s'effondra sur la jeune femme, toujours inconsciente, l'inondant de son ichor bleu et blanc, mais Ada comprit que son chargeur était vide et vit une douzaine de Voynix bondir sur elle. Petyr, Loès et elle étaient agenouillés autour de la blessée, tentant de la protéger avec le bouclier intact. Il ne leur restait plus qu'une seule arme à feu, celle de Loès, et Pétir n'avait à opposer aux Voynix que sa lance brisée.
Arman, songea Ada.
Ce nom évoquait en elle un amour absolu et une rage qui ne l'était pas moins. Pourquoi n'était-il pas à ses côtés? Pourquoi avait-il insisté pour s'absenter alors qu'elle vivait son dernier jour? L'enfant qu'elle portait dans son ventre était aussi condamné qu'elle, et Arman n'était pas là pour les protéger. En cet instant, elle aima Arman d'un amour indicible et le haït de toutes ses forces.
« Pardon, » dit-elle mentalement, s'adressant au fœtus plutôt qu'à Arman ou à elle-même.
Le Voynix le plus proche fondit sur elle, et elle jeta sur sa carapace le pistolet déchargé. Le Voynix partit à la renverse, pulvérisé.
Ada tika.
Les cinq créatures qui les serraient de près s'effondrèrent ou s'envolèrent. Les 12 qui s'approchaient courbèrent l'échine et levèrent les bras pour se protéger de la grêle de fléchettes qui tombait sur eux depuis le Sony. Il y avait au moins 8 passagers sur celui-ci, qui frôlaient la surcharge. Gréogy descendit lentement l'appareil, l'immobilisant à 1,50 m d'altitude.
« Qu'imbécile !» se dit Ada.
Les Voynix allaient bondir dessus, le clouer au sol. S'il perdait le Sony, c'en était fait d'Ardis.
« Vite !»
cria Gréogy. Pendant que Loès leur faisait un rempart de son corps, Pétir et Ada extirpèrent la jeune blessée de sous la carcasse de Voynix pour la jeter au centre du Sony. Des mains se tendirent vers Ada. Pétir rampa vers une couchette. Les rochers tombaient de toutes parts. 3 Voynix bondirent sur eux, mais quelqu'un, P.A.N., c'était P.A.N., lâcha une salve de fléchettes en éliminant 2. Le 3e se reçut juste devant la couchette centrale, face à Gréogy. Celui-ci lui planta son épée dans le torse. Il l'emporta avec lui en tombant à terre. Loès se retourna et sauta à bord. Le Sony tanga, fléchit, piqua du nez et s'écrasa sur la terre gelée. Les Voynix convergèrent en courant. Des Voynix qu'Ada trouva plus terrifiants encore, les découvrant en contre-plongée depuis la coque ensanglantée de l'appareil. Gréogy manipula les contrôles virtuels et le Sony s'éleva doucement. Les Voynix tentèrent de le prendre à l'abordage, mais de nouvelles salves les repoussèrent.
« On est presque à court de fléchettes !»
cria Stoman depuis l'arrière.
« Ça va ?»
demanda Pétir en se penchant sur Ada.
« Oui »
souffla-t-elle. Elle s'efforçait de stopper le flot de sang jaillissant de la jeune femme, mais celle-ci souffrait sans doute d'une hémorragie interne. Ada n'arrivait plus à trouver son pouls.
« Je crois bien que... »
Une grêle de rocher frappa la coque du Sony. Atteinte en pleine poitrine, P.A.N. tomba à la renverse sur la blessée. Un missile heurta Pétir derrière l'oreille, lui projetant la tête vers l'avant.
« Pétir !»
s'écria Ada qui se redressa sur ses genoux pour le saisir. Il tourna son visage vers elle, lui adressa un regard intrigué, un petit sourire, puis tomba dans le vide vers la masse grouillante des Voynix.
« Tenez bon !»
cria Gréogy. Ils prirent de l'altitude et tournèrent autour du château. En se penchant, Ada vit que les Voynix étaient partout, sous le porche, devant toutes les portes, occupés à grimper sur tous les murs, à défoncer tous les volets. L'édifice était entouré d'un rectangle de feu. Le cubilo et les baraquements étaient eux aussi en flammes. Elle n'était pas douée pour les chiffres, mais elle estima à 1 000 000 le nombre de Voynix qui prenaient d'assaut le château.
« Je n'ai plus de fléchettes !»
lança l'homme qui occupait la couchette avant droite. Anna reconnut Bowman, qui lui avait préparé son petit déjeuner la veille. Gréogy tourna vers elle un visage blafard, strié de sang et de boue.
« Il faut regagner le pavillon Fax ! Ardis est perdu !»
Ada fit non de la tête.
« Vas-y si tu veux. Moi, je reste. Dépose-moi là-haut. »
Elle désigna l'antique plateforme à écumeur, entre les pignons et les verrières du toit. Un jour, alors qu'elle était encore adolescente, elle avait conduit là-haut son cousin Daeman, le précédent pour monter l'échelle, lui révélant ainsi qu'elle ne portait pas de culotte. Provocation délibérée de sa part, destinée à taquiner son polisson de cousin.
« Fais-moi descendre !»
insista-t-elle. On distinguait des hommes et des femmes, des ombres aux allures de gargouilles, retranchés sur les pignons, les gouttières et la plateforme proprement dite, qui lâchaient sur la foule frénétique de Voynix en contrebas un feu roulant de flèches, de carreaux et de fléchettes. Autant vouloir arrêter un raz-de-marée en lui lançant des cailloux, se dit Ada. Gréogy immobilisa le Sony au-dessus de la plateforme. Ada descendit d'un bond et on lui passa le corps de la jeune femme, impossible de dire si elle était encore en vie. Puis ce fut le tour de P.A.N., étourdie mais gémissante. Ada les allongea toutes les deux sur la plateforme. Bowman la rejoignit, le temps de récupérer 4 sacs remplis de chargeurs, puis remonta à bord. L'appareil pivota alors sur son axe et s'en fut, piloté par un Gréoji aussi concentré sur sa tâche que la mère d'Ada, jadis, lorsqu'elle jouait du piano dans le parloir. Ada s'avança en chancelant sur le rebord de la plateforme. Elle avait le vertige et, si une silhouette tapie dans l'obscurité ne l'avait pas retenue, elle serait tombée dans le vide. L'homme ou la femme qui l'avait sauvée retourna à son poste et se remit à tirer, produisant le staccato caractéristique d'un fusil à fléchette. Un rocher surgit du néant, le frappa de plein fouet, l'envoyant glisser sur le toit pentu et s'abîmer sur la pelouse. Ada ne sut jamais à qui elle devait la vie. Elle se planta au bord de la plateforme et considéra la scène avec un détachement qui frisait l'indifférence. Comme si le spectacle qui s'offrait à elle faisait partie de l'épopée du Turin. Une histoire vulgaire et irréelle qu'elle suivait pour passer le temps par un après-midi pluvieux. Les Voynix escaladaient les murs du château d'Ardis. Ils s'introduisaient dans l'édifice par les volets fracassés. Le perron grouillant de Voynix était inondé de lumière, preuve que les portes d'entrée avaient cédé. Il ne devait plus rester de survivants dans le vestibule. Les Voynix étaient doués d'une impossible vivacité d'insectes. Ils auraient atteint le toit dans quelques secondes. Une partie de l'aile ouest de la demeure d'Ada était en feu, mais les Voynix arriveraient sur elle bien avant les flammes. Ada se retourna et avança à tâtons sur la plateforme à écumeur, palpant les cadavres mouillés de sang, en quête du fusil à fléchette qu'avait laissé choir son sauveur. Elle n'avait pas l'intention de mourir les mains vides.